Le cantique 9 que nous avons chanté nous évoque un peu les versets que nous trouvons en Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, aimez vos propres femmes, comme aussi le Christ a aimé l'Assemblée et s'est livré lui-même pour elle, afin qu'il la sanctifiât en la purifiant par le lavage d'eau, par la parole, afin que lui se présentât à l'Assemblée à lui-même, glorieuse, n'ayant ni tache, ni ride, ni rien de semblable, mais afin qu'elle fût sainte et irréprochable. De même aussi, les maris doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, mais il la nourrit et la chérit, comme aussi le Christ l'Assemblée. Car nous sommes membres de son corps, de sa chair et de ses os. C'est une exhortation particulière qui s'adresse au mari, et l'exemple, c'est le Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus qui a tout donné, qui s'est livré entièrement pour acquérir ce qu'il avait vu dans le monde, une perle de grand prix. Mais cela ne s'est pas arrêté à cette acquisition. Il en prend soin tous les jours. Il veut l'amener jusqu'à lui et se la présenter lui-même, se la présenter glorieuse. On aurait peut-être aujourd'hui de la difficulté à imaginer une assemblée glorieuse, mais c'est parce que nous sommes sur la terre, il y a les conséquences de nos inconséquences, nous sommes remplis de faiblesses, l'assemblée est en ruine, nous le savons, mais n'empêche qu'un jour, le Seigneur se la présentera glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. C'est son travail de tous les jours d'effacer ses rides. Il intervient dans chacune de nos vies pour que nous le connaissions toujours mieux. Et dans le fond, c'est un travail progressif. Mais il y aura un travail instantané. Lorsqu'il viendra chercher son Église, il se la présentera lui-même. Notons au passage que l'Église, dans ses versets, ne fait rien. C'est le Seigneur qui produit tous les soins. Alors, soyons soumis à ses bons soins, acceptons tout ce qui permet dans nos vies. C'est quelque chose qui contribue d'une part à mieux le connaître, à connaître notre Seigneur, à connaître notre Dieu et Père, mais aussi c'est un travail qui contribue à l'effacement de tous les imperfections. L'exhortation est pleine pour les maris, c'est un travail continu et le modèle, c'est le Seigneur. On discerne un petit peu notre faiblesse quant à ce sujet. Comment aimons-nous nos épouses? Les maris doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps. Est-ce que c'est bien cela que nous faisons? Et alors le Seigneur nourrit, chérit son assemblée. C'est quelque chose qu'il produit jour après jour dans nos vies individuelles. Nous recevons aussi des choses en famille et en assemblée. Et quelque chose de particulier à la fin du au verset 30, nous sommes membres de son corps. On comprend que, alors, pourquoi il se la présentera glorieuse puisque nous faisons partie de son corps.
À la fois, c'est un passage qui est bien connu, mais peut-être que on insiste plutôt sur certains versets et un peu moins sur d'autres. C'est assez frappant dans ce passage qu'il y a trois fois des instructions, exhortations aux femmes et trois fois aux maris. Il y a autant pour les uns que pour les autres. Bon, et les exhortations à la soumission viennent en premier, mais ça c'est, disons, c'est habituel on voit ça dans les Colossiens et puis dans les autres passages où l'exhortation est celui qui est en position de faiblesse et vient en premier. Mais ce qui est frappant aussi dans ce passage, c'est donc ces exhortations au mari, exhortations d'autant plus en un sens étonnante parce que l'exemple est donné de Christ et l'Assemblée. Alors on aurait tendance à penser que les exhortations qui nous concernent, c'est celles concernant l'Assemblée et pas celles qui... Et voilà qu'il y a ces exhortations concernant les maris. Alors, Marie, aimez vos propres femmes. Alors, déjà, on est un peu étonné parce que si on s'est marié, d'habitude, c'est quand même par amour. Et le Seigneur lui-même, à cet égard, il a vu une perle de très grand prix, il a vendu tout ce qu'il avait, et mais dans cet exemple du Seigneur qui a vendu tout ce qu'il avait pour la perle, ce n'est pas l'état des hommes qui était une perle au départ. C'est le Seigneur voyait les choses à long terme. Il a vu la perle. Mais c'est pour ça que on a au verset 25, donc cette première exhortation, aimez vos propres femmes. Et puis, donc, le niveau, dans ce verset 25, mais dans les autres versets, quand je dis les autres, c'est donc j'ai parlé de trois exhortations, donc on a l'exhortation du verset 25, l'exhortation du verset 28, les maris doivent aimer, et puis l'exhortation du verset 33, que chacun de vous aime sa propre femme. Alors, dans aucun de ces versets, il n'y a de considération sur l'état de la femme, savoir si elle est aimable, si elle a des défauts, si ses défauts sont supportables ou pas supportables. C'est très frappant à cet égard que l'exhortation, elle est directe, absolue, et l'homme a toujours tendance à répliquer, comme quand le Seigneur dit dans un des docteurs de la loi qui lui il cite le verset « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », l'autre réplique tout de suite « Mais qui est mon prochain ?» On discute pour échapper quand même à la force de l'écriture. Et là, on a cette force de l'écriture, aimez vos propres femmes. Et alors, non seulement il n'est pas dit si la femme a des défauts ou pas, mais comme aussi le Christ a aimé l'assemblée et s'est livré. Alors on voit que le niveau est placé très haut. Et alors on aurait tendance à dire ouais, mais ça c'est trop haut, on n'arrivera pas à ce niveau-là. Mais l'Écriture ne discute pas cela. Elle dit comme aussi le Christ a aimé l'assemblée. Donc le niveau est placé là et à nous à l'accepter. Alors, on dit, on dira oui, mais il avait des sentiments très, très forts. Mais il s'est livré lui-même, c'est-à-dire il y a des actes. C'est pas seulement des paroles ou des intentions, des sentiments temporaires, mais il s'est livré lui-même. Alors c'est aussi un. Disons, l'exhortation prend aussi une force particulière, étonnante même, est-ce qu'on a ce renoncement à soi-même d'accepter de se livrer pour gagner, et gagner pour sanctifier, pour purifier. Et alors on dit, oui, mais alors c'est qu'elle a besoin d'être sanctifiée, d'être purifiée, si, puisqu'il y a ces indications et du lavage par la parole. Oui, mais il se livre lui-même d'abord. Il n'attend pas qu'il y ait un changement ou une amélioration chez l'autre, il se livre, il se donne. C'est très. Très frappant, et puis ce sont évidemment des images, mais que nous puissions accepter la force de ces expressions. Alors le but, c'est qu'il se présente l'Assemblée à lui-même glorieuse. Je ne reviens pas sur ce qui a déjà été dit là-dessus, mais on voit que l'objectif est uniquement l'amélioration, le bien chez l'autre. Pas question de faire des. Il n'est pas question là de reproches, d'aller lui dire mais non, ça ne va pas parce que tu fais ceci, tu fais cela. Non, c'est afin qu'il se présente l'Assemblée sans tache ni ride. Et puis, le verset 28, c'est une deuxième exhortation, en un sens presque plus forte. Les maris doivent aimer leur propre femme, comme leur. Alors, le niveau, là, c'est pas ce que Christ a fait, le niveau, c'est comme leur propre corps. Alors, c'est. Disons, là, au fond, c'est. On revient sur cette idée de se renoncer soi-même. Est-ce qu'on se fait passer soit en premier, ou bien est-ce qu'on fait passer l'épouse en premier? Doivent aimer leur propre femme comme leur propre corps. Bon, c'est aussi... des passages qu'on lit quelquefois dans des réunions de mariage, mais c'est peut-être qu'on oublie ces, ces passages comme s'appliquant à la vie de tous les jours pendant toute la durée de notre vie. Et puis, disons que peut-être que le jour du mariage, on voit les choses d'une certaine manière, et que l'application de ces passages, quand le temps passe, quand la vie se continue, peut-être aussi quand les idées du monde s'infiltrent, et puis quand on se lasse, alors on arrive à perdre de vue ces choses. C'est aussi pour ça qu'il faut, est important de se les rappeler. Celui qui aime sa propre femme s'aime lui-même. Alors si il n'y a pas la convenance vis-à-vis de la femme, on pourrait presque parler d'autodestruction, puisque celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et puis on voit que, alors, dans le fait de s'aimer soi-même, il est dit, il la nourrit et la chérit. Bon, la nourrit, c'est pas seulement lui apporte la paye à la fin du mois, il y a les soins matériels, il faut pas les oublier, mais il y a les soins spirituels. Mais les soins spirituels, c'est pas présenté comme l'œuvre d'un enseignant, d'un docteur, c'est l'œuvre de nourrir, ce qui implique de répondre aux besoins, et aux besoins normaux, et aux besoins répétitifs, et aux besoins constants. Il la nourrit. Et puis il la chérit, c'est-à-dire que la nourriture, c'est pas, on lui donne pas n'importe quoi, on lui donne avec amour. Alors on dira, ben c'est évident. Mais c'est pas si évident que ça, puisque la parole se donne la peine de donner l'exhortation. Et puis, alors, il y a l'image du membre de son corps, laisser son... Notre frère est déjà évoqué un peu la question du corps, mais ce n'est pas le point sur lequel je voudrais insister. Il y a ce mystère est grand. Moi, je parle relativement à Christ et à l'Assemblée. C'est mis le modèle en exergue, en premier, en disant, s'il y a des mariages, ben il faut imiter Christ et l'Assemblée, ce que Christ a fait. Alors là aussi, c'est aussi frappant, parce que nous sommes dans un monde qui parle beaucoup, on entend tout le temps parler de féminisme, mais féminisme, c'est... Et derrière cette idée de féminisme, il y a tout le temps l'idée d'insister sur ses droits, insister sur moi, sur se mettre moi en valeur. Et la mentalité du chrétien, c'est pas ça du tout, c'est mettre Christ en valeur. Et ce que Christ a fait, et le ménage, le foyer, on cherche à imiter ce que Christ a fait. Alors, de nouveau, il y a ce verset 32, moi je parle relativement à Christ. À l'Assemblée, on aurait tendance à dire, c'est des choses très élevées, moi je ne suis pas aussi spirituel qu'à ce niveau-là, mais ce qui vient immédiatement après, c'est pas de discuter de si on est assez spirituel ou pas assez spirituel, c'est, de toute façon, aimez votre propre femme comme lui-même, et puis c'est tout. Et on en reste à ces choses-là très, très simples. Bon, il y a bien que la femme qu'elle craigne son mari, mais alors ça, on est le côté des exhortations à la femme, mais c'est... Je n'insiste pas trop sur ce aujourd'hui, sur ce côté-là est évidemment important, surtout dans un siècle où on a tendance à l'indépendance, à faire valoir ses droits à soi. Mais ce qui je désire aujourd'hui, insister sur ce côté du mari, parce que ce côté-là, on a spécialement tendance à l'oublier. Alors ça, c'est les exhortations de l'apôtre Paul. Alors, il y a les exhortations de l'apôtre Pierre. Et on trouve ça dans le 1 Pierre 3. Bon, pareillement, il y a là aussi, on trouve des exhortations aux femmes d'abord et aux maris ensuite. C'est toujours dans cet ordre. On sait que l'apôtre Pierre, dans ses épîtres, il développe surtout le côté moral, le côté de la conduite. L'apôtre Paul développe les principes selon Dieu, ce que Dieu a établi, mais il présente moins il présente bien le côté moral, mais Pierre, c'est vraiment le côté moral. Et alors, pareillement, mon propos aujourd'hui n'est pas de m'arrêter sur les exhortations aux femmes, même si elles sont importantes. Et alors, il est parlé de la parure de la femme, donc 1 Pierre 3, verset 5. C'est ainsi que jadis se paraient aussi les saintes femmes. C'est frappant déjà de voir que jadis c'était l'Ancien Testament, alors on dirait mais ça change tout dans le Nouveau, ça change tout, peut-être que il y a des motivations plus excellentes et plus hautes et plus fortes, ça c'est peut-être vrai, c'est certainement vrai, mais l'état d'esprit, la conduite demeure la même, et l'Ancien Testament nous est encore un exemple. Étant soumise, on retrouve la pensée de soumission, mais on dirait, oui, mais pourquoi il y a cette insistance sur la soumission? Mais c'est simplement, il y a un ordre, il y a un ordre à suivre. S'il y a deux commandants dans une équipe, on est sûr que l'équipe va à sa perte. Alors il y a un ordre que Dieu a établi. Bon, est-ce que c'est un ordre de spiritualité? Pas du tout. Là, en fait, on trouve dans l'Écriture toute une série d'exemples de couples, et on trouve, je dirais, tous les genres. Alors, il y a, je les citerai plutôt de mémoire, de toute façon, ils sont assez connus. Bon, le premier, Aquilas et Priscilla, c'est le meilleur exemple, ils sont parfaitement d'accord, ils sont d'accord dès le début, quand il s'agit d'enseigner Apollos, ils sont d'accord pour la suite de leur vie quand il s'agit de recevoir l'assemblée chez eux, soit à Éphèse, soit à Rome, et sont d'accord quand il faut risquer sa vie pour l'apôtre Paul. Ils sont toujours d'accord et toujours d'accord pour le bien. C'est l'exemple tout à fait remarquable. Bon, il y a l'opposé strict, c'est Ananias et Saphira en acte 5. Alors eux, ils sont bien d'accord, mais bien d'accord pour le mal. Alors, pour mentir à l'Esprit Saint. Alors ça, c'est... disons que c'est terrible, mais ça montre, c'est des exemples qui existent pour comment les choses en sont arrivées là. La parole ne le dit pas, comment ils sont se sont dégradés, et la parole ne dit rien. Et puis il y a les exemples où on a la femme qui est plus spirituelle, et puis l'exemple où les exemples où la femme est plus spirituelle, c'est on a Abigaïl, soit par rapport à Nabal qui était incrédule, et au point que c'était Abigaïl est amené à dire mais c'est pas la peine de lui parler parce que de toute façon il est Nabal fou. Et puis elle est aussi plus spirituelle que David, quand il s'agissait du comportement à avoir par rapport aux ennemis. Très frappant de voir cette femme très spirituelle qui est au fond le guide de référence, et d'autant plus de guide de référence qu'elle ne s'impose pas, elle ne se ramène pas en disant « moi je sais et écoutez-moi ». Et puis on a l'exemple alors où c'est le mari qui est plus spirituel. Alors il y a le cas de... Enfin, je reviens encore à la femme plus spirituelle. L'autre cas de femme plus spirituelle, c'est la Tsunamite dans 2 Rois 4. C'est elle qui a eu le discernement de construire une chambre haute pour Élisée. C'est elle qui a eu le discernement de qui était Élisée qui passait chez eux. C'est elle qui a eu le discernement de savoir ce qu'il fallait faire quand l'enfant a été malade. Et puis le mari, il comprenait rien. Il comprenait rien au point que quand elle est partie amener l'enfant chez Élisée, il lui dit « mais tu fais quoi là ?» Elle lui répond « tout va bien », mais plutôt dans l'esprit de dire « mais tu peux pas comprendre ». Et puis alors, on a le cas alors où le mari est peut-être plus spirituel que la femme. Disons que le cas d'abord... Alors on a le cas extrême de Job, où sa femme lui dit « maudit Dieu et meurt ». Alors là, c'est le même niveau que Abigaïl et Nabal, c'est-à-dire où le conjoint est incrédule. Mais... c'était quelque chose qui renforçait les preuves sur Job de ce que sa propre femme lui faisait une suggestion. C'est une façon de dire tu ferais mieux de te suicider. C'est sa propre femme lui fait une suggestion catastrophique. Et on voit ce qui est remarquable dans cet exemple-là de Job, c'est la dignité avec laquelle il lui parle. Et alors, ça rejoint notre sujet l'attitude du mari par rapport à la femme. Job répond à sa femme, « Tu parlerais, oh yes, comme parlerait l'une des incrédules, je crois. Mais Il lui fait même pas le reproche en disant « Mais tu dis des bêtises, là, tu dis des choses qui tiennent pas debout. » Et il lui répond avec une dignité, même qu'il y avait une faute évidente. Alors, il y a eu, dans le cas d'Abraham et de Sarah, Sarah a été relatée dans l'Écriture comme étant une femme de foi. Je ne me rappelle plus si c'est en Romains 4 ou en Hébreux 11. Mais en tout cas, on voit que c'est quand ils ont reçu c'est en Genèse 18, quand ils ont reçu la visite des trois messagers, c'était deux anges et puis l'Éternel, qui venaient annoncer la destruction de Sodome. Et on voit, c'est Abraham qui a discerné qui étaient les messagers et qui a dit d'aller vite chercher le veau gras. Quand l'Éternel a fait l'annonce que Sarah allait avoir un enfant à son terme, elle s'est mise à rire. Elle s'est mise à rire, mais dans le cas de Genèse 18, c'est un rire d'incrédulité. Cet égard, là aussi, on voit un tact de Abraham qui parle à sa femme de façon très convenable. Et alors, on a dans le passage de Pierre, je reviens, que nous avons sous les yeux, c'est ainsi que les saintes femmes qui espéraient en Dieu, étant soumises à leur propre mari, comme ça, Sarah obéissait à Abraham, l'appelant Seigneur. Alors là, on dirait, c'est plus de notre temps, c'est plus faisable, ça. Mais c'est justement que l'apôtre Pierre le dit pour le temps chrétien. Alors on dira, oui, mais c'est dégradant. Mais alors, il faut lire le passage en entier. De laquelle vous êtes devenus les enfants en faisant le bien, en ne craignant aucune frayeur. C'est pas parce qu'elle appelait Seigneur qu'elle en avait peur. Au contraire, elle le trouvait, elle voyait des qualités, mais son mari ne lui faisait pas peur. Et alors, on a ce verset 7, « Pareillement, vous, mari. » Pareillement, ça veut dire, j'ai pas donné un ordre qui est à sens unique. Hein. « Demeurez avec elle, selon la connaissance, comme avec un vase plus faible, c'est-à-dire féminin, leur portant honneur. » Alors, c'est assez frappant parce qu'on voit l'acceptation de faiblesse, mais il n'est pas dit de faiblesse dans quel domaine, mais c'est-à-dire féminin, bon, c'est inhérent à ce qu'elle est, elle est plus faible, mais il n'y a pas à s'en enorgueillir et à mépriser, puisque au contraire, c'est demeurer avec elle selon la connaissance comme avec un vase plus faible. Ça veut dire qu'on accepte cette situation. Et on ne s'insurge pas en disant faut que ça change, dorénavant. Leur portant honneur, comme aussi étant aussi ensemble héritiers de la grâce. Alors l'expression est tout à fait remarquable, parce que on voit que si on avait tendance à s'insurger contre l'appellation de Seigneur à Abraham, là, l'exhortation, c'est leur portant honneur. Et est-ce que il ne s'agit pas simplement de supporter sa femme, il ne s'agit pas simplement il ne s'agit pas du tout de la prendre de haut. Il ne s'agit pas du tout de la traiter comme un vase faible, c'est-à-dire qui est plus ou moins incapable. C'est le contraire, leur portant honneur. Et alors, c'est assez frappant parce que dans l'Éphésiens 5 qu'on a lu, c'est le côté de l'amour. C'est donc insisté trois fois, et trois fois c'est le chiffre divin, c'est une insistance, et aussi de par la bouche de deux ou trois témoins, il y a vraiment une insistance trois fois sur l'amour. Mais là, c'est pas l'amour, c'est l'honneur. C'est-à-dire que il ne s'agit pas de dire qu'elle est honorable quand elle n'est pas honorable. On doit lui porter honneur. Et alors, pourquoi elle est honorable? Mais parce qu'elle est héritière de la grâce de la vie. Et on est héritier ensemble. C'est-à-dire de ce côté-là, on est ensemble héritier de la vie, c'est Dieu qui a donné, c'est le Seigneur qui a donné, et ce qu'on possède et ce qu'on a, il l'a donné par grâce, et on ne méritait rien, et on est héritier de la grâce de la vie, pour toute la vie. Alors, que nous puissions, j'insiste sur cette question d'honneur porté. Parce que il ne s'agit pas, je répète excusez-moi si je me répète, mais il ne s'agit pas simplement de se supporter, mais il s'agit de se porter honneur. Et encore une fois, on dira, mais est-ce qu'elle est honorable ou pas honorable? Mais hériter ensemble de la grâce de la vie. Dieu nous a tout donné, il nous a fait grâce, et le niveau, la position qui nous est faite, elle est de Dieu. Bien que il y a certainement d'autres passages de l'Écriture qui mériteraient d'être pris en considération, mais je désire réellement que nous pesions tous ces passages, parce que on est dans un temps où le monde, l'esprit du monde, tend à casser tous les principes divins et tout ce que Dieu a établi. C'est les histoires de mariage pour tous, de genre, etc., etc., etc. C'est pas par hasard qu'il y a ces problèmes-là, c'est les problèmes sur ce que Dieu a établi. Et l'ennemi, la doctrine de l'Antichrist, est de commencer par renverser l'ordre établi de Dieu. On rappelle que dans l'ordre établi de Dieu, il y a la pensée dans Genèse 2, c'est « je lui ferai une aide qui lui corresponde ». Et l'expression « aide » est toujours très remarquable, parce que Adam avait été mis au travail déjà dans le jardin d'Éden. Il devait cultiver. Il ne s'agissait pas de laisser tout croître n'importe comment. Et puis, Ève a été donnée comme une aide qui lui corresponde. Alors, cette pensée d'aide, il y a cette pensée de travailler en commun à l'œuvre que Dieu a mis en place. Alors, c'est tout à fait remarquable, parce qu'il ne s'agit pas de faire prévaloir son activité à soi, de faire prévaloir le métier de l'un, le métier de l'autre, de faire prévaloir ses besoins pour l'œuvre de Dieu. Aide qui lui corresponde. Alors l'expression qui lui corresponde est aussi remarquable, parce qu'il y a une correspondance. c'est pas n'importe qui avec n'importe quoi. C'est une correspondance. Mais cette correspondance, elle implique l'amour, oui, mais l'honneur aussi. Que nous puissions avoir ce sens des dignités et des sens, pas seulement des. C'est pas une dignité inhérente à nous, c'est une dignité qui a été donnée par grâce, héritier de la grâce de la vie.